Bonsoir Théo Baucher, bien sûr on vous retrouve d'ici une heure pour un nouveau point sur l'information.
Mishka Assayas raconte Oasis depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique sur France Inter.
Ce soir c'est le second volet d'une émission spéciale en public au studio 104 de France Inter. Ouais, ils sont vraiment sympas. Hein. Ils sont vraiment sympas. Un album qui a marqué l'histoire, le second qu'a signé le groupe Oasis, What's the Story, Morning Glory, paru en 95. Et d'ailleurs, c'est le public qu'on entendra au cours de cette seconde heure, du moins la deuxième moitié, puisque bah, certains, j'en doute pas, un instant, auront à cœur de nous dire ce que Oasis a représenté et représente encore peut-être dans leur vie. Un titre signé Oasis en 1995, She's Electric, étonnamment proche de Blur. Hein, pour débuter la seconde heure de cette émission spéciale en public au Studio 104. Ouais, yes, consacré à cet album bah, voilà, qui a marqué en profondeur l'histoire de la musique populaire. Alors maintenant, il est temps quand même d'aborder bah, le fond humain des choses, parce que d'où débarquaient au juste les frères Gallagher? Eh bien, d'un quartier du sud de Manchester qui s'appelle Burnage, une banlieue pavillonnaire aux maisons agglutinées aux toits rouges en quinconce, traversée par une autoroute. Il y avait là une grosse usine textile, jadis, mais elle a fermé à la fin des années 80 pour devenir un supermarché. Tout comme l'unique cinéma du quartier, prolongé d'une salle de bingo. C'est dans cet environnement morne et sans attrait, comme tant de banlieues, que les frères Gallagher, Noel né en 67 et son cadet Liam né en 72, ont grandi. Alors ils s'ennuyaient comme des rats morts, faut dire ce qui est. Ils ont fait les conneries habituelles. Noel s'est fait placer en liberté surveillée pour avoir volé à l'étalage. À 15 ans, on l'a renvoyé du collège parce qu'il avait lancé un pot de fleurs à la tête du directeur. Et puis il a dû exercer dès cet âge-là, et ça j'éclairerai les circonstances, toutes sortes de petits boulots, dès l'âge de 15 ans, vendeur de fruits et légumes, laveur de carreaux, promeneur de chiens et ramoneur. Quand je revenais du boulot, disait Liam au Zinrock en 1994, quand je revenais du boulot, il n'y avait rien d'autre à foutre. Le foot, John Lennon et la colle. Voilà à quoi ressemblait ma vie. Quant à son petit frère Liam, une sorte de bon à rien, il faut dire ce qu'il y a, il traînait à la maison, il reniflait de la colle, il buvait du whisky, et il volait tout ce qu'il pouvait. Mais ils avaient deux exutoires, d'abord le football. Noël et Liam suivaient tous les matchs de Manchester City. Manchester City, c'est la grande équipe rivale de Manchester United. Bon. Manchester City vivait alors, comme aiment dire les commentateurs sportifs, une descente aux enfers, qui allait aboutir à une relégation en 3e division à la fin des années 90, un triste sort que, heureusement, ses succès un peu plus récents ont pu faire oublier, en partie. L'emblème des Citizens de Manchester City, c'était le voilier et la rose. Et je me rappelle d'ailleurs l'avoir vu, cet emblème collé sur l'ampli de Noël, il y a quelques années, au cours de ce concert avec les High Flying Birds, fin des années 2010. Donc, d'ailleurs, il faut préciser qu'au sommet de sa gloire, Noel Gallagher a failli racheter le club de Manchester City, c'est vous dire l'attachement qu'il éprouvait pour lui. Et puis, bah, évidemment, si je reviens, c'est plus mon domaine, il y avait la musique. Noel avait 10 ans quand le punk rock a débarqué. C'est le bon âge. Et comme je vous disais, son modèle, c'était Paul Weller, le leader du trio The Jam, avec lequel il deviendrait ami à Londres et qui influerait d'ailleurs beaucoup, beaucoup sur son développement de musicien. Quant à Liam, il tapait quant à lui sur des congas à la maison en écoutant des disques et il a même été le premier des deux frères à créer un groupe qui s'appelait The Rain, un groupe qui allait nulle part et sur lequel Noël a fait pour ainsi dire main basse en lui imposant, pour ainsi dire, puisque bon, bah, c'était l'aîné, de chanter ses propres chansons. Et dans tout ça, alors, quelle était l'ambiance au foyer ? Horrible, il faut le dire. Le père, un ouvrier qui posait des sols en béton, était un homme alcoolique et violent qui battait comme plâtre sa femme et ses enfants. Vous savez qu'il a frappé si violemment Noël que celui-ci a été en proie au bégaiement pendant plusieurs années. Et quand Noël a eu 17 ans, il a eu le courage, avec sa mère, de virer carrément le père du foyer. L'envers de ça, c'est que Liam, qui était beaucoup plus jeune, s'est retrouvé tout seul, à l'âge de 12 ans, livré à lui-même. Et la mère partait donc le matin travailler dans une cantine scolaire, laissant seuls ses trois fils. Alors, comment les choses ont-elles commencé ? Eh bien, comme souvent, par une malchance qui s'est transformée en chance. Noël a eu un accident du travail en installant un jour une conduite de gaz. Un gros tuyau lui est tombé sur le pied. Résultat, on l'a envoyé surveiller un entrepôt où il n'avait pas grand-chose à faire. Et c'est là que, pour tromper l'ennui, armé de sa guitare sèche posée dans son petit coin, il grattait ses trois accords qui lui suffisaient pour poser des mélodies jaillissantes, comme ça, simples, et des bouts de paroles qu'il traversait. C'était vraiment comme un don du ciel, ça lui est tombé dessus, et c'est de là que Oasis est né de l'ennui et des rêves que celui-ci entraîne. Alors c'est marrant, si vous êtes là ce soir, ou si vous écoutez cette émission, vous avez sûrement présente à l'esprit la grande rivalité de la Britpop entre Oasis, hein, les prolétaires du nord de l'Angleterre, et Blur, les étudiants petits bourgeois du sud. Une compétition montée de toutes pièces par la presse musicale qui reproduisait celle tout aussi artificielle, il faut le souligner, qui 30 ans auparavant avait opposé les Beatles, les prolos gentils et bien élevés du nord, ou Rolling Stones, les étudiants cultivés, néanmoins sauvages et rebelles du Sud. En réalité, les Beatles et les Stones étaient potes. Dans le milieu, tout le monde le savait. Et c'est même les Beatles qui, d'ailleurs on ne le souligne pas assez, qui ont poussé les Stones à sortir du blues pur et dur et à faire du rock'n'roll. Bon, dans le cas de Blur Oasis, c'est vrai, ils n'étaient pas copains. Noël a déclaré d'ailleurs en 1995 à l'hebdomadaire The Observer qu'il souhaitait que Damon Albarn et Alex James de Blur attrapent le sida et en crèvent. Alors on a pris l'habitude de ces invectives entre rappeurs, plus c'est outrancier, plus c'est de mauvaise foi, plus c'est n'importe quoi, mieux c'est. Et même ignoble, évidemment, c'est tout ça y calculé. Pour faire parler, pour exciter, pour occuper le terrain. C'est un système qui a largement dépassé la musique, mais c'est pas pour moi le lieu ici d'en parler. Bref, voici où je veux en venir. Damon Albarn et Blur se référaient aux Kinks, aux Small Faces, des groupes londoniens que adoraient ceux qu'on appelait les Mods, et ça avait été aussi, justement, de prestigieux modèles et inspirateurs pour Paul Weller. Et donc, évidemment, vous voyez que tout ça se rejoint et que l'opposition était très artificielle. Alors, on a entendu tout à l'heure une chanson qui s'appelle She's Electric. C'est franchement frappant parce qu'elle ressemble à une chanson de Blur.
Yeah, we know.
Stay Young, une chanson qui a failli figurer dans l'album Be Here Now, qui est paru en 97. Elle a atterri sur une face B, et je tenais à vous la faire entendre, parce qu'elle témoigne très bien de cette aptitude qu'avait Noel Gallagher à écrire des hymnes, qu'on imagine facilement repris à tue-tête par une foule dans un stade, ce qui ne manquera pas de survenir d'ici une quinzaine de jours, quand Oasis démarrera sa tournée le 4 juillet à Cardiff, au Pays de Galles, sa tournée britannique, puis américaine et australienne. L'Europe continentale, ça sera en 2026. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai glissé. Je compte sur vous pour nous rattraper, notamment ce que la presse a complaisamment désigné comme les frasques des frères Gallagher. C'est un mot qui excitait beaucoup ceux qui écrivaient sur le rock à l'époque, qui étaient en général, j'en ai croisé pas mal, en général des gens à la vie extrêmement tranquille et bien réglée, salariés ou aspirants à l'être, et qui s'excitaient beaucoup, pour prendre bien un autre terme, plus trivial, sur le monde des voyous, des malfrats, des sales gosses mal élevés qui cassent tout, qui disent merde à la société. En général, c'était l'inverse de ce qu'ils étaient dans leur vie. Alors bon, on en a lu des articles sur les cuites, les chambres d'hôtel détruites, les insultes, les coups de poing entre frères, la défonce, les filles qui se jetaient sur Liam, le beau gosse sportif aux yeux bleus, etc. Enfin bref, tout le folklore habituel. L'homme qui leur a signé leur premier contrat, l'Écossais Alan McGee, fondateur de Disc Creation, un type très roublard, avait parfaitement compris comment il fallait vendre Oasis. Les Gallagher ont surfé sur cette vague avec beaucoup de malice. Ils se sont rendus compte que leur caractère censément brutal, sauvage, donnait des palpitations aux journalistes de Londres qui, faut dire ce qui est, débarquaient dans la banlieue de Manchester, un peu comme dans un zoo. Et ils en ont évidemment joué, et comme ils étaient sans filtre, c'était pas difficile, oui, effectivement, ils se chamaillaient fortement, et il y a eu des rixes, bon, ça c'est notoire, mais il faudrait quand même rétablir certains faits. Non, les musiciens de Oasis, les frères Gallagher, le guitariste Bonehead, le bassiste Gexie et le batteur Whitey, n'arrivaient pas sur scène défoncés. Voici ce qu'a déclaré Noël il y a 30 ans déjà. « Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je suis incapable de jouer défoncé ou pété. Ça m'intéresse pas et j'ai jamais eu envie d'essayer. Pour les répétitions, je dis pas », ajoutait-il. Voilà. Et puis aussi, personne dans le groupe n'a jamais pris d'héroïne ou de crack, tous ces trucs qui te rendent cinglé. Oui, on se défonce parfois, on picole, on prend des extas de temps en temps, mais on est bien moins dingue que ce que les gens croient. Il a même ajouté, le premier qui prend de l'héroïne dans le groupe, je le vire. Alors évidemment, il y a eu des ratés en 1996, après un concert triomphal à Nebworth, dans la banlieue nord de Londres. Oasis devait participer au célèbre programme MTV Unplugged, où un groupe est censé se produire sans instrument électrifié ou avec une amplification très légère. Liam a à peine participé aux répétitions, il avait la gorge en feu, mais enfin, au lieu de se soigner, il a picolé et il n'a pas dormi du tout. Il a passé plusieurs jours sans se changer, l'air de s'en foutre complètement. L'équipe de MTV avait jamais vu ça, et finalement, c'est Noël qui a chanté. Il s'en est très bien tiré. C'est Round Our Way. The paper boy's working before he goes. Lying to the teacher who knows he knows. He didn't and he should have brought his lines in yesterday. And then he bangs the sound as the day begins. The letterbox is open, your cash files in. I meet you at the office just before the step clock in.
Sound, but no one's spoken since half past four. La 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 la.
Et oui, vous avez entendu, il y avait des applaudissements après cette version de Round Our Way, parce que c'était au studio new-yorkais pour l'émission MTV Unplugged. Et puis nous, on a du public aussi ce soir. Ben voilà. C'est le public du studio 104. Et c'est le moment justement de donner la parole à certains d'entre vous. Alors, je vais quand même amorcer ça par quelque chose qui, moi, m'intrigue, et je voudrais que vous répondiez à ça. C'est qu'il y avait beaucoup de désillusions dans l'album What's the Story, Morning Glory, qui était un album un peu sur le scepticisme face au fait d'être une rockstar. Dans Roll With It, Liam chantait « Je crois que je sens que j'ai perdu un truc en moi, je crois que je vais me mettre à l'écart, je vais me cacher ». Dans Don't Look Back in Anger, Noel disait « Ne mets pas ta vie entre les mains d'un groupe de rock'n'roll qui va tout dilapider hein, ». C'était lucide. Donc, je vais commencer par lire le témoignage de quelqu'un qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Arnaud Olivier, qui nous a envoyé un email qui m'a pas mal touché. Voilà, il me dit « J'avais 16 ans, en 1994, j'étais follement amoureux d'une jeune femme qui m'avait fait connaître les Guns N' Roses quelques années plus tôt. Pourquoi je me souviens exactement du moment où elle m'a parlé de Oasis ? Parce que ça a profondément influencé ma vie, je pèse mes mots. Elle était alimentée par son oncle et sa tante de Saint-Lô. Ces derniers suivaient l'actualité « Next Big Thing » et allaient au concert. Cet engouement ruisselait ensuite sur nous, isolés dans le Cotentin. Pour lui plaire, pour rester aussi à la page et entretenir mon engouement, je lisais Rock et Folk. Ce Noël 1994, je me suis donc fait offrir « Definitely Maybe ». Je l'ai écouté allongé avant de dormir dans la nuit du 24 au 25. Je n'ai pas fermé l'œil. Cet album m'a terrassé. Me concernant, ce choc musical n'a pas d'équivalent à ce jour. La voix de Liam, les riffs simples et directs de Noël, la dynamique des morceaux et leur ordre dans l'album « Definitely Maybe » est devenu « Definitely the Big Thing ». Voilà. Alors, je voudrais qu'on entende, peut-être s'il veut parler maintenant, Benjamin, parce qu'il voulait nous raconter la première fois où il avait entendu Oasis, et je ne sais pas où il est, parce qu'il est là. Et voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bah, merci déjà de faire cette émission.
Il est au premier rang, Benjamin, c'est vrai.
Bonjour à tout le monde. Oasis, c'est la porte ouverte à la musique rock'n'roll. Enfin, déjà, mon éducation musicale, c'est avec une maman qui écoutait Uma Guma de Pink Floyd, ah oui. Et mon père...
C'est pas très rock'n'roll.
Ouais, et mon père qui chantait Jacques Brel, donc oui. Ça faisait... Voilà. Donc moi, je découvre Oasis en 95 avec... avec Hit Machine, avec les singles qui passent en tout. J'ai 10 ans, j'achète l'album, je m'écoute les tubes. Et en fait, je redécouvre l'album quelques années plus tard, en entrant au collège. Je ne sais pas, je pourrais pas dire pourquoi, mais je l'écoute une fois, d'une traite, et c'est la révélation. Ouais. C'est, voilà. C'est encore aujourd'hui, j'ai pas les mots pour dire ce que c'est Oasis, quoi. Pour moi, c'est la vie.
Est-ce que ça a été un album qui a ouvert une porte vers d'autres groupes, d'autres choses? Ça a été vraiment une sorte
totalement
isolé.
Tout à l'heure, vous citiez les Stone Roses, évidemment, les Beatles, on écoutait un petit peu à la maison, aussi évidemment, les Rolling Stones. Il y a les Laz aussi, qu'on peut citer aussi, qui est une très grosse référence de Noël.
Oui.
En fait, Oasis, quand moi je suis arrivé après, c'était avec la naissance aussi d'Internet. Je suis allé sur un forum français d'Oasis qui existait pendant très longtemps, où j'ai rencontré beaucoup de monde, où on parlait beaucoup de musique, où on citait énormément de groupes qui arrivaient, toutes ces choses-là. Donc ça m'a ouvert des portes sur toute ma culture musicale que j'ai faite aujourd'hui, à maintenant 40 ans. Mais Mais voilà, quoi, c'était...
Et j'étais juste curieux d'un truc par rapport à votre expérience, c'est que moi j'ai essayé d'insister sur le fait qu'il y avait ce côté à contre-courant un peu d'Oasis. Est-ce que vous aviez l'impression que c'était à part du reste de la musique qu'il y avait autour, ou ça ne vous apparaissait pas? C'est ça qui m'intrigue.
Moi, alors, c'est très marrant parce que c'est vrai que quand on arrive... comme vous disiez tout à l'heure aussi, c'est quand c'est la... Moi, je suis un peu arrivé à la fin de la Britpop.
Oui.
Et c'était bon, les buts des années 2000, c'était la période de Standing of the Shoulders of Giants.
Oui, oui.
Et le groupe était déjà un peu has-been, même déjà, c'était vrai de passer has-been. Et on n'était plus dans la frange Britpop, tout ça, enfin dans la vague Britpop, pardon. Et c'était très... moi, je passais vraiment pour un gars un peu ridicule en écoutant Oasis, alors que c'était la période du new metal et toutes ces choses-là. Moi, j'écoutais aussi du new metal, mais Oasis, c'était vraiment le groupe référence pour moi.
Merci. Je voudrais quand même, alors, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a pu rencontrer Liam, qui était backstage à Rock en Seine. C'est Mathieu. Il était avec Vitalik et il a pu discuter 5 minutes avec Liam. Alors, c'était quelle année? Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Je crois que Mathieu est là-bas. Il est un peu dans le fond, mais voilà, il a tout de suite un micro. On l'écoute.
Ouais, bonjour, merci beaucoup. Alors moi j'étais en 2009 à Rock en Seine, comme beaucoup de monde, et j'avais la chance effectivement d'avoir un pass backstage. Bon, j'avais le secret espoir de croiser les Oasis bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a backstage et backstage, et Oasis ils ont un super backstage auquel bien sûr j'avais pas accès. Donc grosse déception, donc on a noyé notre déception dans quelques bières avec donc l'équipe de Vitalik, très sympathique, mais que je n'écoutais absolument pas. Et au final, il y a 2 grosses berlines noires qui arrivent, avec Noël en premier qui sort comme une bombe et qui va dans son backstage, suivi du guitariste, du bassiste, du batteur. Et la deuxième berline noire, donc déjà séparée, il y a Liam Gallagher qui sort. Et moi, je suis avec une bière à la main et je lui fais un espèce de signe un peu ridicule, voilà, peut-être un hello franchement mal prononcé. Et il fonce sur moi, je suis tout seul. Et il m'embrasse, il me fait un énorme hug et tout, il commence à me parler, je comprends absolument rien évidemment. Il est très agité, il me fait un gros hug, et la seule chose que je comprends, c'est tu vas voir, ça va être le concert de ta vie. Voilà.
C'était malvenu, oui, voilà. Effectivement. Et vous aviez découvert Oasis quand? Comment?
Alors moi, je pense qu'on est à peu près de la même génération que...
Et ça vous a fait le même effet?
Et ça m'a fait le même effet, en fait, moi j'étais toute cette période, on parlait tout à l'heure de Woodstock 99, moi j'écoutais tous ces groupes un peu métal, un peu triste, un peu voilà. Et puis j'ai découvert Oasis parce qu'on m'a invité à un concert, j'ai eu cette chance là d'aller à l'Olympia les voir, et choc immense.
Ah ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ce concert?
Je me souviens que je connaissais pas les chansons, très peu, peut-être j'en avais entendu à la radio, et en fait tout m'a semblé d'une évidence pure, simple.
Parfait, c'est très bien, on va écouter une chanson, celle que justement Noël Gallagher considère comme la meilleure qu'il ait jamais écrite. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, c'est The Master Plan. C'est une chanson dont un passage était comme une promesse que Noël se faisait. Prends le temps de donner du sens à ce que tu veux dire et jette aujourd'hui tes mots sur les vagues avec ton consentement, sur un bateau d'espoir. Et quand ils arriveront sur le rivage, dis-leur qu'il ne faut plus avoir peur et chante-le aujourd'hui fièrement. Danse si tu veux danser, s'il te plaît, mon frère, saisis ta chance. Tu sais qu'ils iront là où ils veulent aller. The Master Plan pour Noël, c'était sa chanson d'Oasis préférée.
On a ship of hope today, And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go.
Je parlais tout à l'heure de Burt Bacharach. Dans cette chanson signée Oasis de Masterplan, il y a une orchestration de cordes à la John Barry. On se croirait presque dans une chanson pour un James Bond. Maintenant, je voudrais vous lire un témoignage que j'ai reçu, qui m'a beaucoup touché. C'est un peu long, mais je crois que ça mérite d'être lu. C'est signé par John DeFool, Steph the French Dude. Voilà, c'est tout ce que je... Ce serait pas sa véritable identité. Bon, bref. Quand tu nous as proposé de raconter une anecdote au sujet de Oasis, j'ai eu l'impression que tu t'adressais directement à moi, car plus qu'une anecdote, c'est carrément un moment très important de ma vie personnelle, voire intime, qui est lié à Oasis et à tout particulièrement à leur deuxième album. D'abord le contexte. À l'automne 1994, irrésolu à me lancer dans les études, m'ennuyant dans ma campagne, déprimant dans cette France baladuro-pascoyenne, je décide de m'exiler outre-Manche en partant avec mon sac à dos et ma guitare. Londres va très vite m'adopter, j'y resterai jusqu'à ce que je sois, hélas, appelé sous les drapeaux. Pendant ces deux ans, la Britpop et le grunge, mais aussi l'électro, le dub, la jungle, furent la bande-son de mon séjour. Concernant Oasis, je me souviens avoir entendu quasi quotidiennement Roll With It lors de sa sortie, avant que ce soit le tour de Wonderwall d'inonder les ondes. Avoir 20 ans à Londres à cette période, c'était tout simplement fabuleux, surtout en tant que Français. Je n'ai pourtant pas abusé de la réputation du French Lover, puisque je n'y ai vécu qu'une courte idylle, et pourtant tellement forte. Le genre d'amour vous donnant l'impression d'être seul au monde, oubliant tout ce qui nous entoure. Et c'est là que j'en reviens à Oasis pour deux raisons. D'abord, parce que la jeune fille, rencontrée par l'intermédiaire d'un de mes nombreux flatmates travelers, et s'exprimant de sa voix haut perchée avec un fort accent du North of England, venait tout droit de Manchester, d'où elle avait fugué de chez sa mère. Très jeune donc, 16 ans, mais il y a prescription, et puis j'étais pas beaucoup plus vieux, mais d'une admirable maturité, ainsi que d'une véritable érudition musicale au point qu'elle en savait bien plus que moi, pourtant passionnée en la matière. La musique était donc parmi nos sujets favoris de conversation lorsque nous ne nous bécotions pas dans les parcs londoniens ou dans les pubs. La deuxième raison qui me fait regarder la pochette de cet album comme nul autre, c'est que pendant sa fugue, mon amoureuse logeait dans un centre d'hébergement destiné aux Young Homeless. Cet endroit devant lequel nous avions la joie de nous retrouver, mais aussi tant de mal à nous séparer, porte le nom de Centrepoint. Il est situé en plein Soho, au 25 Berwick Street, et il a une façade qui se reconnaît facilement par son haut vent arrondi. On peut d'ailleurs la voir sur la photo où se croisent deux hommes en couverture de What's the Story, Morning Glory, voire en pièce jointe. Bon, je la montre au public. Mais voilà pourquoi Oasis est tellement lié à mon histoire personnelle. Je ne peux pas écouter un titre de cet album sans éprouver une profonde nostalgie pour cette expérience londonienne en général et pour cet amour de jeunesse en particulier. J'avoue même en avoir du mal à retenir mes larmes en me remémorant ce souvenir qui reste que presque 30 ans après l'un des plus beaux de ma vie. Merci Oasis. Je pense que ça peut s'applaudir parce que c'est vraiment... C'est très touchant. On n'a pas reçu, pour tout vous dire, beaucoup de témoignages, mais celui-là est vraiment est très vrai, quoi. En fait, je me demandais si quelqu'un, avait une expérience un peu intime, justement, que s'il y a quelqu'un pour qui la découverte d'Oasis a compté dans sa vie intérieure, si j'ose dire. Ah, il y a Madame au premier rang.
Bonjour. Moi, je m'appelle Gabrielle. J'ai 24 ans. Oui. Et Oasis, ça a touché ma vie sur plein de choses, mais surtout sur la découverte de ma carrière, honnêtement, oui. Aujourd'hui. J'ai d'abord écouté Oasis jeune, mais à une période où c'était Justin Bieber, les One Direction, enfin tout ça. Mm. Et c'est mon père à qui je fais une dédicace et qui adore Very Good Trip. Merci. Et qui m'a fait écouter Very Good Trip, qui s'appelle Arnaud Doublé, qui a fait mon éducation musicale et qui m'a fait passer par Blur, par... Oasis, par plein d'autres, The Cranberries, U2, plein d'autres groupes dont j'ai été fan très jeune et que j'ai continué à écouter. Et pour vous la faire courte, mon frère a commencé la guitare et a commencé par Wonderwall. Ouais. Il n'a jamais pris de cours. Et j'ai voulu faire comme lui, mais en mieux. Du coup, à 11 ans, j'ai commencé à faire de la guitare. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que j'en fais. J'ai commencé par Wonderwall, du coup, pour dire à mon frère que je faisais mieux que lui. Et aujourd'hui, en plus d'être compositrice, un peu chanteuse, j'étudie la musique, j'ai étudié le journalisme aussi à Dublin. Et c'est Don't Look Back in Anger qui m'a accompagnée à Dublin quand j'ai entendu le premier homme qui chantait dans la rue quand je suis sortie Dublin. Il chantait cette chanson qui m'a beaucoup apaisée. Aujourd'hui, c'est Champagne Supernova que j'écoute beaucoup.
Mais vous l'avez fait exprès parce que vous savez que c'est avec Champagne Supernova qu'on va se quitter ce soir. Ce que j'ai prévu. C'est magique.
Merci pour Very Good Trip.
Merci de me dire tout ça. Vous savez, j'ai pas fréquemment l'habitude de parler. Ça arrive dans certaines circonstances, mais de voir les gens qui écoutent l'émission, ça compte énormément pour moi. Vraiment beaucoup.
Ben, ouais. C'est grâce à mon père. On vous écoute tous les deux.
Ben, merci.
On vous adore.
Voilà, bon.
Bravo.
Merci. Moi, bon, voilà, je vais me disparaître sous terre. Bon, voici la chanson ultime donc de What's the Story, Morning Glory. Une chanson très psychédélique aux paroles sans qu'une idée, une chanson euphorique qui se termine un peu comme Hey Jude, hein, ce qui ne surprendra personne, avant de disparaître dans l'infini intersidéral. Champagne Supernova.
Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wipe that tear away now from your eye.
disais, c'est un peu l'évasion dans l'espace intersidéral. C'est la fin de Champagne Supernova. C'est la chanson qui concluait l'album What's the Story, Morning Glory, auquel on a consacré quand même, l'air de rien, 2 heures d'émission. Ça, j'espère que c'est pas passé trop lentement, que c'est passé vite. Et j'ai oublié de vous dire quand même une chose importante sur la voix de Liam. Le producteur Owen Morris, producteur artistique du groupe, en tout cas les deux premiers albums, il a compris que très tard, dit-il, pourquoi Liam chantait d'une voix aussi forte, aussi puissante, que en fait aucun micro n'y résistait. Façon de parler dans le sens où on lui mettait des micros classiques, ça se mettait tout de suite dans le rouge, quoi. Donc il a fallu trouver des astuces, des ruses, et on a fini, vous savez, par mettre devant sa voix un de ces micros particuliers qu'on place à quelques centimètres, dont on place les têtes à quelques centimètres des amplis de guitare, donc pour capter des sons extrêmement puissants. C'est qu'en fait, quand il répétait, eh bien Liam chantait sans micro. Et il chantait le plus fort qu'il pouvait pour couvrir le son de l'ampli de la guitare de Noël. Et donc, il pensait que c'était normal de chanter comme ça. Et ça explique cette incroyable puissance qui sort de cette voix, qu'on a l'impression de vraiment d'un animal étrange qui essaie de vous appeler du fond de sa caverne le plus fort qu'il peut pour retenir votre attention. Vous voyez, je crois que c'est Bono qui disait que ce qui fait la beauté de la voix de Liam, c'est la puissance de la douleur, quoi, qui est contenue en elle. Voilà, écoutez, je peux dire que c'était pas un sujet facile pour moi. J'ai apprécié Oasis d'une manière peut-être indirecte, sur le tard, mais ce que j'ai passé, vraiment, je l'apprécie beaucoup et je suis très très touché que vous soyez venu. Ça compte beaucoup pour moi de faire une émission en direct avec des gens, avec des humains, des vrais humains présents, et pas des statistiques qu'on vous dit pour vous dire il y a tant de gens qui écoutent l'émission, t'as fait 30% en plus, ou je sais pas quoi. Et donc c'est vachement important, et vraiment, je voulais qu'on vous entende quand même une dernière fois. Merci beaucoup, c'est super. Merci infiniment. J'ai toujours une certaine appréhension quand je fais des émissions en public, parce que je suis parfois intimidé, mais après ça se dé. Voilà, il me reste à remercier très chaleureusement Stéphane Ronxin à la réalisation, Guillaume Ledu à la console, Alexia Lacour à la préparation. Merci Alexia. Et aux équipes du Studio 104, il y a Farid Melab, régisseur du 104, Célia Dufour, coordinatrice technique, Stéphane Touvenin à la sonorisation, Cindy Le Grumelec et Franz Kinan Lajaili au plateau. Merci également à Rabat Arabe, Omer Vilsens pour les visuels ce soir, Édouard Rose et Raphaël Pio aux lumières, et Colline Colantonio et François Bory à la vidéo. Voilà, j'ai oublié absolument personne. Comme disent les hommes politiques, je m'en félicite. Voilà. Et je vous remercie encore infiniment.
Shut up. Shut up.
Here I stand with head in hand. I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling 2 foot small. Got to hide your love.
So that's something.